que nos patients nagent dans un environnement plus paisible. Je ne sais pas si c'est des petits poissons comme ça au lac Léman. Et malgré la difficulté de la clientèle, il y a quand même un rayon de soleil pour les aider. Alors, ça m'amène à la dernière partie dont Bruno m'avait demandé de parler, qui est celui de la réinsertion sociale. Modèle canadien, c'est ça, Bruno? Le modèle canadien? Je ne sais pas si c'est du canadien. Donc, la place et rôle du milieu d'hébergement. Alors, on cherche un milieu de vie stable et adéquat. L'ouverture à l'approche de l'équipe de soins, supervision ou encadrement de l'équipe qui travaille dans les ressources appropriées et la réadaptation psychosociale. Alors, on va illustrer en fait, un travail que je fais à l'intérieur d'une ressource spécialisée, celle qui était en arrière-plan, qu'on reverra de toute façon. Donc, on va décrire cette ressource, décrire la clientèle, décrire l'organisation clinique et les philosophies et principes de prise en charge. Donc, ça s'appelle la résidence Lafleur. C'était une dame Lafleur qui avait comme une espèce de belle auberge au bord d'un tout petit lac. Tu connais? Et un endroit absolument merveilleux, la salle à manger pour les patients est directement au bord de l'eau. Et ma dernière visite, j'ai fait de la thérapie de groupe au soleil sur un petit truc en ciment sur l'eau. Très agréable. En menaçant un patient écolalique constamment de le lancer à l'eau s'il n'arrêtait pas de répéter la même phrase plus que deux fois avec l'aide d'autres patients. Donc, il y a moyen de s'amuser quand même en faisant ce travail. Donc, il y a 33 lits. Maintenant, il y en a près de 40 en deux pavillons plus un bâtiment pour les ateliers de production. 16 places disponibles en appartements supervisés. Ça, c'est une cascade très intéressante de dégradés, si on veut. Et il ne faut pas oublier que c'est de la clientèle médico-légale aussi, pas seulement des pénitenciers, mais des mandats de commission d'examen. Donc, une cascade d'appartements très supervisés, supervisés, semi-supervisés, jusqu'à l'appartement autonome. Alors voici, c'était pas non plus la semaine dernière, ne vous inquiétez point. Donc la résidence Lafleur. Excusez les surexpositions, c'est parce que je fais cette route-là une fois par mois pour aller voir mes patients et c'est toute beauté. Une église magnifique à Sainte-Ursule. L'hôtel de ville. C'est pas aussi ancien qu'ici, hein. C'est joli. Cette photo-là n'est vraiment pas belle. C'est la route. Par contre, elle est très importante. Même si le docteur Lamotte est d'accord avec moi que la photo est vraiment pas belle, elle a une importance presque capitale quand je vais décrire la population qui séjourne au foyer de la fleur. C'est que l'hôtel de ville, c'est la ville de Louisville, qui est à peu près à 100 km de Montréal. Et ensuite, on monte 25 km au nord, à un petit village. Et le foyer Lafleur, lui, est à 1 km du petit village. Alors, quand on traite une population avec des délits majeurs, la délinquance sexuelle, des pédophiles, ben, les pédophiles, il ne faut pas qu'il y ait d'école trop proche, hein, idéalement. Donc, c'est un lieu problématique de toxicomanie aussi, avec des doubles, triples, quadruples, quintuples diagnostics. Malheureusement, c'est un lieu qui est très privilégié, qui est très agréable, et la distance a un facteur quand même important aussi. Malheureusement, un collègue d'un autre hôpital a déjà dit « Vous n'allez quand même pas envoyer ce patient en Sibérie. » Ça, je ne l'avais pas trouvé très drôle, celle-là. Donc, si quelqu'un veut fuguer, c'est une petite portion des 25 km à faire. J'ai un patient qui l'a déjà fait, d'ailleurs. C'était l'été, il est arrivé avec les pieds remplis comme ça, avec des aines absolument sans faire le prix. Il est resté couché pendant 2 semaines sur base volontaire pour s'en remettre. Non, il s'est retrouvé dans une cabine téléphonique, il a appelé la police, il dit « Je peux-tu retourner à Pinel, s'il vous plaît? » Donc, ça, c'est un des bâtiments où sont les patients. Juste de l'autre côté, il y a le petit lac que l'on ne voit pas. Ça, c'est les camions qui livrent pour les ateliers de production. Ça, c'est l'entrée du bureau, non, c'est pas de l'administratif, c'est l'entrée de la cafétéria. Ça, c'est agréable. Qu'est-ce que c'est, ça? La cuisine? Oui. Mais quoi d'autre? Oui, pour donner les injections, oui, tout à fait. Et quoi d'autre? Le bureau du psychiatre. Donc, c'est très agréable de changer de décor comme ça, avec le vieux poêle à bois antique. Et moi, je m'assois là, le patient s'assoit là, j'ai mon petit dictaphone, j'ai mes notes au fur et à mesure, dans ce magnifique décor. Après ça, on passe à table. À la clientèle, des statuts légaux variés, des sentenciers fédéraux, des sentenciers provinciaux, des cas de probation, qui seraient comme l'équivalent maintenant de sursis, des cas de commission d'examen et beaucoup de patients en cure libre aussi. Les délits sont variés. Il y a des délits mineurs de nature économique, il y a des délits contre la personne, des délits graves contre la personne. Par exemple, au moment où j'avais préparé ce truc, là, il y a plus de 27-28 cas de Pinel. 6 homicides quand même, 3 tentatives de meurtre, 2 voies de fait graves et 4 avec délits sexuels majeurs. Donc, c'est une clientèle quand même significative et ça prend une ressource comme ça pour pouvoir les accommoder. Si le foyer La Fleur ferme demain, il y a 3/4 des patients qui rentrent à Pinel. Il n'y aura pas d'autres ressources pour les accueillir. Alors, il y a un bassin de fond. Donc, plus chronique, un bassin mobile et d'autres, comme certains cas d'itinérance à Montréal, qui vont faire un petit tour pour se stabiliser, ou des cas plus instables en externe à Montréal, qui ont besoin d'un petit moment de répit. Donc, le bassin de fond, c'est fréquemment, évidemment, des délits majeurs ou des psychotiques chroniques, le mélange des deux, des gens qui sont très, très, très malades. Même avec la clozapine, qui sont abondamment délirants et qui sont non fonctionnels dans d'autres ressources, et très heureux de se retrouver au foyer de La Fleur. Les autres diagnostics, autres problématiques, l'organicité, évidemment, qui est un problème très important, donc des syndromes neuropsychologiques, une certaine quantité de troubles de la personnalité, donc des gens caractériels, mais ce n'est pas vraiment leur place là-bas parce que c'est trop risqué pour mettre. Juste parlant en québécois, là, pour jouer des games de bras, mettre de la pression sur les autres, ça devient. C'est difficile de gérer des gens qui ont des troubles de personnalité purs dans ce lieu. Évidemment, les problématiques sexuelles, il y a beaucoup de gens qui ont fait des délits majeurs sexuels, allant jusqu'à des meurtres, et qui évoluent de façon favorable là-bas. Et beaucoup de problématiques de toxicomanie, et. On se prépare pour... Il y a un apéro, je crois, après la présentation ce soir. Donc, on peut avoir toute cette sauce-là en cocktail. Donc, quelqu'un peut avoir tous ces problèmes-là ensemble, ce qui fait un petit cocktail bien arrosé. Le bassin mobile, eux, ça va être plus des patients qui peuvent être chroniques ou semi-chroniques avec un meilleur pronostic, des délits souvent moins graves ou un délit grave, mais une dangerosité connue et bien circonscrite. Donc, à partir de là, on peut se permettre, et surtout quand il y a un concept de fiabilité et d'alliance, de laisser évoluer ces patients-là vers des ressources moins structurées, comme on a mis tantôt, une cascade d'appartements, ou par exemple un transfert en foyer de groupe à Montréal, une fois le patient évidemment bien connu et stabilisé. Et parfois, il y en a qui viennent à Montréal, qui se désorganise, qui remonte au foyer de La Fleur. Donc, il y a tout ce mouvement qui est très intéressant entre les ressources, dépendamment de la problématique des patients. Le personnel professionnel, le directeur de la ressource, mon PDG, un infirmier qui est lui-même infirmier psychiatrique, ça aide beaucoup. C'est absolument incroyable avec les nouvelles médications, la clozapine, les bilans clozapine, prise de sang toutes les semaines. Maintenant, c'est rendu aux deux semaines. Épival, les problèmes physiques de ces patients-là. Et il y a une wagonnette, là. Comment t'appelles ça, Pierre? Hein? Une monospace? Oui. Chez nous, c'est une vanne, là. Mais... Donc, il a maintenant acheté une deuxième wagonnette pour transporter les patients au centre communautaire pour les prises de sang, tellement qu'il y a beaucoup de bilans à faire. Oui, mais c'est une vanne. C'est un monospace. Il n'est pas encore rendu au stade de l'autobus scolaire, là. Ça viendra peut-être. Une criminologue aussi, qui est responsable clinique, qui fait un excellent travail pour mettre un cadre clinique et faire des entrevues avec les patients. Une secrétaire hors pair, quand le PDG part en vacances, la secrétaire devient à peu près infirmière, elle connaît toute la médication, je peux l'appeler, faire des modifications. Bon, on a un système assez lousse, comme on dirait en bon québécois. Il faut bien s'organiser pour faire un bon travail et sortir des sentiers battus. Et un psychiatre fixe pour les cas qui sont au nom de Pinel, ça c'est du ravage, je l'ai appelé tantôt. Donc moi je vais là une fois par mois. Donc, une journée au complet, tous les patients sont discutés. Les patients sont vus en moyenne aux deux mois ou au besoin quand ils vont moins bien. Et ce qui est très important pour le foyer, c'est d'être disponible en tout temps par ailleurs, quand il y a des problèmes, des pépins, avec ouverture directe. Je ne pose pas de questions. Quand Régent m'appelle, me dire « le patient va bien, est-ce que je peux l'admettre? » C'est « oui, tout de suite, en auto ou en ambulance si nécessaire. » On ne pose pas de questions. Et ça, c'est tout à fait fondamental pour l'articulation avec les ressources, parce que les ressources qui ont de la difficulté à faire hospitaliser leurs patients, c'est l'enfer, et ça dégénère souvent en violence, et ces ressources-là, après ça, ne prennent plus les patients des hôpitaux quand ils n'ont pas confiance en l'hôpital. D'ailleurs, je peux bien en parler tout de suite. Moi, quand j'étais en formation, j'avais l'impression que les ressources étaient au service de l'hôpital et que c'était comme de leur faire une faveur que de leur envoyer des patients. Maintenant, je vous dis que c'est absolument très clair pour moi que c'est tout à fait l'inverse. C'est l'hôpital qui doit être au service des ressources et les ressources qui nous aident beaucoup à manœuvrer notre clientèle, nos patients, pour qu'ils soient le plus heureux, stable et qu'ils aient une bonne qualité de vie. Et le respect de la ressource est quelque chose qui manque encore beaucoup et qui doit constamment progresser. Et on entend tellement d'histoires. Et c'est des histoires qui tournent au vinaigre. Le patient qui ne va pas bien, qui n'est pas admis, qui sort son couteau puis qui poignarde l'autre parce qu'il est paranoïde, là, c'est pas des histoires intéressantes. Donc, c'est très simple, les valeurs fondamentales, c'est comme partout, sauf qu'il faut que ça soit là. Le respect, l'empathie, l'alliance, mais aussi le limit setting. On ne permet pas aux gens de faire n'importe quoi dans des lieux comme ça. Et les interventions doivent être parfois corsées et fermes, avec des sanctions. Et quitte à ce qu'il y ait un séjour à Pinel, une semaine ou deux. Sinon, ça devient très désorganisé. Ça, je vais passer rapidement sur le quotidien. Je ne sais pas quelle heure il est, là. Ça doit être à peu près terminé, oui. À l'organisation clinique, le modèle qu'on a développé, Régent et moi, c'est un modèle très semblable au milieu hospitalier. Comme quand on fait le tour de tous les patients, moi, c'est ce que je fais le lundi quand je rentre sur mon unité d'admission. Je fais le tour de tous les patients pour voir comment ça s'est passé pendant le week-end et à la fin de la semaine. On fait la même chose là, sauf que c'est une fréquence d'une fois par mois. Et évidemment, c'est adapté à la ressource. Il y a un système aussi de personnes de référence. Je ne sais pas si c'est un terme qui est familier pour vous. Oui. Donc, ça aussi, très intéressant, avec des notes. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'on est à la campagne. C'est loin, là. Amener les gens à écrire des notes. Ce n'est pas des infirmiers, c'est des gens de la population autour qui ont beaucoup de bon sens, mais quand même de les amener, grâce à la responsable clinique, à faire des écrits, nous renseigner sur les contacts que les patients peuvent avoir avec la famille. Donc, tous les jours, il y a des écrits qui sont ensuite digérés par la responsable clinique et qui me transmettra ça, bon, s'il y a des problèmes particuliers. Un système de plan de soins, donc, comme dans un hôpital, avec les objectifs, modification des objectifs à atteindre pour le patient et les écrits dont j'ai parlé. Alors, il y a toujours la notion, c'est ce que j'ai raconté un peu tantôt, la notion des deux perspectives, celui qui réfère le patient et celui qui accueille le patient. Et le rôle du milieu de soins, ça, c'est le rôle de l'Institut Pinel, ou de CIRI, ou de... Moi, je ne peux pas me permettre de travailler au foyer Lafleur si le patient n'est pas bien stabilisé, avec une médication ajustée. Je ne peux pas commencer à ajuster ou faire des changements complexes dans un lieu qui n'est pas hospitalier. Je peux faire des petits ajustements, mais j'ai insisté beaucoup auprès de mes collègues que le patient qui sera référé au foyer Lafleur doit être très bien connu, bien évalué. J'exige qu'il y ait un résumé de dossier complet qui accompagne le patient. Et on a reproduit un système de dossiers comme à Pinel. On a un petit chariot là avec tous les dossiers. J'ai demandé la permission aux archives d'avoir un double des résumés de dossiers, des trucs légaux, commission d'examen. Toutes mes notes évolutives sont là, les bilans sanguins sont là, les prescriptions sont là. Donc, c'est comme un mini-hôpital dans le sens organisationnel. Sinon, pas de résumé de dossier. Moi, si le patient il me dit « Ah, mon docteur, il m'a dit que j'en avais pour 6 mois ici. » Sais-tu, moi? Au nombre de patients que je vois, je ne peux pas deviner. Donc, il faut que ça soit écrit, le plan de soins, le plan de traitement, dans le résumé de dossier, pour qu'ensuite ça soit clair. Je dis non, et j'ai la feuille en main. Ton docteur prévoit un séjour d'un an ou tant de temps au foyer Lafleur. Ça, c'est ce que je vous racontais tantôt. Donc, notre rôle, d'être en fait disponible en tout temps. Ça, on en a parlé aussi tantôt, des différents sous-groupes ou catégories allant vers l'autonomie totale. Et je vais conclure là-dessus. Merci beaucoup.
Je vous remercie pour cet aperçu illustré de l'Institut Pinel. Et nous avons encore 5 minutes pour des questions techniques. Bien sûr que M. Durivage sera là ce soir pour le débat. Est-ce qu'il y a des questions?
Une petite question technique sur la législation fédérale ou provinciale. Est-ce qu'il y a une distinction qui est faite entre le traitement obligatoire, compulsory, et l'hospitalisation ou l'enfermement obligatoire? Puisque la législation européenne tend maintenant à distinguer le fait que l'hospitalisation ne soit pas un permis de chasse, et on peut très bien, par exemple, prendre un paranoïaque délirant qui dit « Docteur, vous êtes bien gentil, mais moi, quand je sortirai, il y aura toujours le gaz sous ma porte par mon voisin, et je serai bien obligé de faire justice moi-même. » Cette personne-là n'étant pas, finalement, aurait le droit de délirer librement, sans qu'on le contraigne à devenir un légume et à abandonner son délire à l'intérieur de l'hospitalisation à partir du moment où il est cadré sous contrainte. Et à l'inverse, il pourrait y avoir des cas où, en étant libre, on recevrait un traitement sous contrainte sans être dans un setting, sans être enfermé dans un endroit précis.
Donc, vous parlez d'une...
Est-ce qu'il existe une distinction entre le commitment,
voilà. Garde en établissement,
placement et le soin. Le soin sous contrainte.
Oui, ça, malheureusement, ça dépend un petit peu des hypothèses, bon, parce qu'il faut évidemment éviter les abus, mais c'est quand même un peu dommage. Quelqu'un qui nécessite d'être en cure fermée ou en garde en établissement ou en placement d'office, habituellement, pour des psychiatres qui respectent leurs patients, nécessite un traitement. Bon. Alors, si c'est un traitement pharmacologique qui est nécessaire, nous n'avons pas le droit d'imposer de traitement, sauf en cas d'urgence. Donc, un patient imminemment menaçant, pour lui ou pour autrui, on peut élargir les critères un peu aussi là-dessus. Et moi, je suis un patient qui refuse catégoriquement le traitement, puis on dirait que vous êtes venu chez nous la semaine dernière parce que j'en ai un paranoïaque de la bande de Gaza qui voit des nazis partout. Sujet très intelligent, mais pas question qu'il prenne un traitement. Donc, ce qu'on doit utiliser, je ne sais pas si vous l'avez, l'article 43, ça inclut le traitement, ça?
Pas défini?
Non? Donc, nous avons depuis, c'est un peu Pinel qui a été à l'avant-garde. Pinel a été à l'avant-garde de ce truc de loi où on peut aller devant le juge pour demander une ordonnance de traitement. Au début, c'était très complexe, mais là, il y a une jurisprudence qui a été établie. Ok, vous connaissez la réponse, mais vous vouliez qu'on informe l'Assemblée. C'est très bien. Donc, il y a l'ordonnance de traitement qui est valide pour, qui peut être valide, je pense, jusqu'à 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi valide en externe. Donc, c'est transposable en externe. Ça, c'est très intéressant parce que nous, je me souviens, quand j'étais à Montpellier, il y avait les placements volontaires. Je pense que... Oui, il y avait des placements volontaires. Je pense qu'on pouvait... le traitement devait se continuer en externe, à moins que je me trompe.
Non, mais on a l'âge des...
Oui.
S'il ne le prend pas, on réintègre.
C'est ça.
Et c'est vrai que ça correspond à peu près à cette ordonnance que les pays européens réclament actuellement.
Oui.
Je ne sais pas si ça a été entendu pour l'enregistrement. Je disais donc que ce que tu mentionnes du patient en hospitalisation HDT, qui est juste en HDT sorti d'essai simplement pour qu'on le contraigne à prendre le traitement, c'est une chose qui est peu satisfaisante. Et on a un patient en Île-de-France qui est célèbre pour en être à sa 32e année de sortie d'essai. Et le préfet, il y a eu déjà, ça a été jugé par le tribunal administratif parce que le préfet lui-même voulait dire que ça ne correspondait plus à rien d'être en sortie d'essai pendant 32 ans. Et le tribunal administratif a confirmé la légitimité de la sortie d'essai, qui est en fait simplement un moyen de contraindre la personne à prendre son traitement. Donc, il est proposé au Conseil de l'Europe de démultiplier l'hospitalisation sous contrainte et le soin sous contrainte. Et vous avez remarqué que je ne parle pas de consentement.
En ce qui concerne la Suisse, je voulais simplement dire qu'il y a une décision très récente du tribunal fédéral qui a déclaré que tout traitement sous contrainte était illégal, sauf juridiction cantonale. Autrement dit, quand il n'y a pas de juridiction cantonale, il y a un vide juridique qui fait qu'on n'a pas le droit d'imposer médicalement un traitement. On ne peut imposer le traitement que s'il y a une autre juridiction cantonale qui a été mise en place et qui prévoit ce cas de figure. Ceci dit, on parle des cas civils, entre guillemets, c'est-à-dire des hospitalisations non volontaires. En ce qui concerne les articles 43, c'est-à-dire des mesures qui ont été décidées pénalement, le tribunal fédéral assimile l'hospitalisation sous l'article 43 et le traitement.
Et le traitement.
Alors les cantons, c'est très variable. À Genève, on a une loi relativement ancienne, une loi cantonale ancienne, qui interdit les traitements sous contrainte, sauf situation d'urgence. Donc un cas tout à fait semblable à ce qui se passe au Québec, apparemment. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres cantons où il n'y a pas de loi cantonale concernant les hospitalisations non volontaires, si bien qu'on est obligé de se référer à la loi fédérale, qui, une fois de plus, ne prévoit pas ce cas de figure.
Donc, à propos de ce point, donc dans le canton de Vaud, on travaille justement à une législation qui devrait définir à quelles conditions. Du patient. Le débat, comme je l'ai dit, est ouvert.
Et il y a eu une ébauche.
Oui, il y a eu une ébauche, il y a eu une consultation, et c'est quelque chose auquel on a travaillé. notamment le docteur Gravier, moi-même. Et, mais enfin, c'est un débat difficile pour définir justement jusqu'où doit-on aller dans des situations de violence, dans des situations de danger de mort. Enfin, c'est justement ce que je disais hier, pour contre la liberté personnelle du patient.
Si jamais ça vous intéresse, il y a eu jurisprudence à partir de certains cas de Pinel, avec une ébauche, c'est plus qu'une ébauche maintenant, mais avec il y a même mon chef de département, qui Lyonnais, qui vient de sortir un papier là-dessus, avec des conditions qui rentrent bien dans le moule judiciaire. C'est clinique, mais ça s'entend bien par la justice.
Alors, ce serait bon que nous l'ayons, effectivement. Ça nous permettra de...
Avec des droits d'auteur?
Pardon? Mais bien entendu, on va s'arranger entre okay, États.
C'est bon.
Mais la question que je voulais vous poser était la suivante. Quel arrangement y a-t-il, comment les choses se passent entre l'hôpital psychiatrique, qui a, par exemple, une situation d'extrême violence, qui n'arrive pas à gérer, et... L'hôpital Pinel, pour éventuellement un passage de l'hôpital psychiatrique à l'hôpital Pinel. Parce que vous avez parlé des hôpitaux généraux, oui. Est-ce que vous compreniez les hôpitaux psychiatriques?
Oui, tout à fait. Donc, c'est la formule du contrat où le chef de département ou le directeur des services professionnels, tout se fait par fax avec une formule déjà toute prête. Et aussi, le patient doit avoir été mis en cure fermée, parce que maintenant, au Canada, il faut aller en cours pour les placements d'office. Ici, je ne sais pas, mais c'est depuis 2 ou 3 ans, c'est un merdier total, parce qu'il faut aller en cours si le patient conteste. À 24 heures d'avis, on perd une journée, c'est vraiment très compliqué. Alors que de toute façon, il y a un mécanisme d'appel qui vient à l'hôpital, une commission des affaires sociales qui vient à l'hôpital si le patient conteste. Alors, c'est vraiment rendu très compliqué. C'est parce que, tout le respect que j'ai pour les avocats, ça leur fait quand même pas mal plus de travail. Et c'est donc une situation qui devient très complexe. Donc, on exige que le patient soit d'abord en placement d'office pour nous être transféré ensuite avec un contrat qui habituellement est de 21 jours, où il s'engage à garder contact avec nous, à venir voir le patient, il y a des exceptions, discuter du plan de soins et reprendre le patient après 21 jours. Évidemment, il y a des cas qui sont tellement chroniquement dangereux, ils vont rester à Pinel, ceux-là, quand même pas probablement. Mais ça permet un roulement. Et ça, c'est un concept qui est... Pardon? Oui, parce que sinon, on se retrouve avec une clientèle chronique qui n'a pas besoin de la sécurité de Pinel, et quand il y a des patients très activement violents à l'hôpital général, on dit, je m'excuse, il n'y a pas de place. Voulez-vous faire un échange? On est obligé de faire des échanges. Il y a certains hôpitaux qui ne veulent pas les contrats. Ils veulent les échanges. OK, on va faire un échange. Mais la notion de contrat est quand même très intéressante. Pas très intéressant, point.
J'aurais simplement voulu une clarification au niveau de la valeur limit setting. Qu'est-ce que vous entendez par le limit setting?
Poser des limites. Donc, avec certains règlements, un encadrement, pas le droit de fumer dans les chambres, pas le droit de faire des échanges de cantine, des trucs comme ça, pour éviter les conflits entre les patients. Donc, en fait, limiter les comportements inacceptables dans une vie de groupe avec des sanctions appropriées en fonction aussi du degré de compréhension du patient.
Oui, je voulais vous demander si les moyens mis à disposition de vos services étaient suffisants au Québec pour traiter, pour prendre en charge l'ensemble de la population des délinquants souffrant de troubles psychiques?
Moi, je dirais que oui. Un petit bout que je ne vous ai pas raconté, parce que ça, c'est une présentation de quelques années. Malheureusement, actuellement, depuis 1993, le Québec a décidé de faire comme les autres régions pénitentiaires et de se construire un centre de santé mentale à l'intérieur de la prison, d'un pénitencier. Et c'est vraiment pas la même qualité de soins, pas du tout. Les patients que j'envoie au foyer Lafleur, depuis que j'y travaille, il y a peut-être eu deux suspensions, dans le sens devoir être retourné au pénitencier. J'en envoie, je crois, moi, 6, 7, 8 par année. Eux, ils ont un taux de suspension de 50 %. Ils trouvent ça normal. Parce que dans les pénitenciers, c'est souvent à peu près la norme. 50 % de taux de suspension, c'est-à-dire le gars qui fait pas nécessairement un délit, peut-être un délit. Alors là, ça roule pas mal plus carré actuellement. On est en pleine négociation parce qu'ils veulent devenir autonomes, indépendants, nous envoyer les gros monstres, avoir la couverture de la responsabilité médico-légale et traiter les gens à moitié. Ça, pour en discuter aussi plus à fond, traitement avec, vous appelez les surveillants, c'est les gardiens de prison. Ils ont l'air très gentils ici, de ce que j'ai entendu. Je ne sais pas si ou j'ai mal entendu, mais le gardien de prison, c'est un gardien de prison au Québec. On ne va pas payer pour être gentil. Il y en a qui sont très, très corrects, mais un détenu, c'est un détenu, puis... Moi, quand je vais faire des expertises au pénitencier, je demande, est-ce que je peux voir monsieur un tel? Ouh là là, j'ai vite appris qu'on ne demande pas monsieur un tel. C'est pas un monsieur. Il perd son statut de monsieur, le détenu. Donc, c'est peux-tu voir le détenu Archambault? Alors, bon, c'est pas comme ça partout, ça dépend des structures minimum, tout ça. Mais... Donc, avant qu'il y ait cette structure-là, oui, on pouvait traiter la population carcérale. Avant, il y avait... 90 patients sur 300 à Pinel. Il y avait des programmes, troubles de personnalité borderline. T'as là, Bruno, je ne sais pas si tu es en train de... C'est fait un peu personnalité criminelle, multirécidiviste, délinquance sexuelle et psychiatrie. Là, il reste délinquance sexuelle et psychiatrie. Et ils veulent couper. Alors...
Je vous remercie.
Toute petite remarque anecdotique à propos du monsieur. C'est vrai que quand on rentre pour soigner en prison, il y a quelquefois cette difficulté entre les intervenants qui serrent la main aux détenus et ceux qui ne le font pas. Et dans le code pénal de 1994, il y a une nouveauté intéressante, c'est qu'on va dans la ligne du détenu citoyen, qui était un vœu de Jean Favard à l'administration centrale de l'administration pénitentiaire, qui est un peu difficile à comprendre, mais qui... quand même est important. C'est-à-dire que non seulement on ne perd pas la qualité de personne en entrant en détention et qu'on garde sa dignité de personne, mais même dans la plupart des délits, on garde ses droits civiques. Les détenus peuvent voter, non seulement en étant prévenus, mais même en étant condamnés, s'il n'y a pas eu dans leur condamnation expressément prévu qu'on les privait de leurs droits civiques. C'est un exemple des choses. Alors c'est vrai que pour les surveillants d'administration pénitentiaire, il y a une ambiguïté entre le fait d'être dans la contrainte et dans la force et d'être privé en quelque sorte des possibilités de témoigner les marques de cette considération. Et le serrage de main est un des exemples et il faut qu'on arrive à trouver des positions qui permettent à chacun d'être dans sa mission.
Quand je fais une expertise au pénitencier, quand je suis devant le gardien, au contrôle, hein, je ne serre pas la main du détenu. Si lui me serre la main, je serre la main. Mais quand je rentre dans le bureau, je lui serre la main. Sinon, il va dire, c'est qui ce comique-là qui salue les détenus même.
Il faut quand même commencer par saluer les surveillants, parce que c'est psychiatre.
Ah non, je suis très gentil avec les surveillants. Sinon, les portes ne s'ouvrent pas. On peut attendre très longtemps.
J'aimerais vous demander, tout au début, il y avait question des... délinquants juvéniles. Vous avez parlé de 11-12 ans. Vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus?
C'est pas mon spécifique, mais c'est la délinquance sexuelle. Agression sexuelle, attouchement, viol de jeunes garçons. Donc, je suis en train de dire qu'il y en avait de 11-12 ans. La moyenne est plus 13-14-15. Ce sont des sont sous la loi des jeunes contrevenants et sont expertisés en clinique externe à Pinel, parfois, et il y a des groupes de traitement, de thérapie pour ces 150 jeunes-là, et d'année en année, je pense que si je revenais vous voir dans 3 ans, je ne serais pas étonné qu'il y en ait 400. Ça grimpe à une vitesse folle. La délinquance sexuelle chez les juvéniles est en croissance exponentielle. La responsabilité pénale.
En France, c'est 13 ans la responsabilité pénale. En dessous de 13 ans, on n'est pas dans le système pénal. On admet que c'est la part de responsabilité.
OK. Non, je ne sais pas exactement au Québec, mais 11-12 ans, je suis sûr qu'on peut se retrouver dans un centre d'accueil.
Est-ce que vous pouvez préciser, je n'ai pas compris, est-ce que c'est des enfants, moi j'appelle ça des enfants de 11-12 ans, ils se trouvent en milieu pénitentiaire?
Non,
ou est-ce qu'ils viennent pour des traitements? Enfin, je n'ai pas bien compris.
OK, parce qu'il y a deux trucs là. Il y a le volet où je présentais la clinique externe de Pinel.
Oui.
Mm-hmm. OK, ça c'est à l'extérieur de Pinel, mm-hmm. où il y a de la thérapie pour les délinquants sexuels juvéniles et les adultes. Mais il y a aussi une section de 150 patients, si on veut, d'un âge moyen, 14, 15, 16 ans.
Mm-hmm.
Donc, il n'y a aucun truc pénitentiaire pour eux. Par contre, il y a aussi la section à l'hôpital, une unité d'adolescents. Et je vous dirais que sur l'unité d'adolescents, les délits maintenant, ça doit être 60-70 %, c'est des délits sexuels. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Je ne sais pas quand tu étais là, Bruno, il me semble, mais quand je commençais à Pinel, il y avait des gars qui faisaient des vols, bon, il y avait eu des trucs de violence, tout ça, mais la délinquance sexuelle fleurit comme le printemps. C'est pas très drôle, puis c'est un printemps qui n'arrête pas, malheureusement. Alors, à Pinel, un contrevenant juvénile qui a commis une agression significative, sévère, va être pas dans un pénitencier, mais dans un centre d'accueil pour jeunes contrevenants. Donc, un centre fermé, qui, bon, c'est pas une prison, mais c'est je sais pas comment on appelle ça ici, là, un centre d'accueil. Et de là, pour être envoyé en expertise à l'Institut Pinel, expertise qui sera rendue au juge par la suite. Est-ce que c'est plus clair?
Mieux, merci.
On continuera le débat en fin de journée et je propose maintenant qu'on passe à la pause de midi. On se retrouve à 2 heures ici. Et pour les personnes qui n'ont pas pris leur bon de repas et qui veulent manger à la cafétéria de l'hôpital, passe au secrétariat pour acheter le bon de repas. Merci et bon appétit. C'est le tableau.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Michel. J'ai un CFC de cuisinier. Je travaille au Grain de Sel depuis 2 ans. C'est aussi la première fois que je me présente devant vous, de prendre la parole devant vous, devant une si belle assemblée. Je suis très impressionné. Mais c'est avec plaisir que je vais vous lire le témoignage de Carlos, recueilli par notre journaliste Luc Pan lors de sa visite aux prisonniers de Bochy. Je suis détenu depuis 5 ans. J'étais d'abord à Chandelon, puis j'étais transféré au pénitencier de Bochy, où je trouve maintenant une section ouverte. Au mois de mars, je partais au régime de la semi-liberté que j'effectuerai à Genève. J'ai voulu profiter de tout ce temps pour faire des études et je suis passionné par l'informatique, domaine qui m'était totalement inconnu auparavant. J'ai aussi étudié l'anglais et appris le français. Au début, le responsable de l'informatique m'a dit « Voilà, c'est ça, ça te rappelle un ordinateur. Maintenant, votre place de travail est ici. Je ne sais pas si vous comprenez mieux le français ou l'anglais. voici deux manuels, un dans chaque langue. Au revoir et bonne chance. Que faire? Je ne voulais rien demander aux autres détenus car je ne les connaissais pas, ne leur faisais pas confiance. J'ai le manuel pendant 15 jours avant d'oser allumer l'ordinateur. C'est d'ailleurs ce qui m'a pris de la familiarité avec le français, car je devais sans cesse avoir recours au dictionnaire. Un jour, j'étais actionné l'interrupteur de l'écran, et l'écran s'est allumé. Ce n'est pas évident de pénétrer dans le monde de l'informatique quand on n'y connaît rien. On a l'impression d'entrer dans une immense forêt sans boussole. Quelle direction prendre? Traitement de texte, mise en page, dossier, calcul. Personne n'était là pour me conseiller. Je me suis d'abord un peu dispersé, puis je suis orienté vers le domaine que j'avais un peu pratiqué dans mon pays, celui de la comptabilité de la gestion commerciale. L'administrateur du pénitencier s'est rendu compte que je progressais sérieusement et je vais convaincre d'engager un professeur. Depuis 2 ans, il est venu tous les mardis matins et m'a permis d'approfondir mes connaissances. Par exemple, du système d'exploitation de l'ordinateur. Je n'ai pas seulement fait une théorie, mais aussi des travaux pratiques. Je viens par exemple d'élaborer un programme qui permet de gérer les activités sportives et culturelles des EPO. Qui participent à quoi? Ou combien de temps, etc., etc. Lorsque je serai en semi-liberté à Genève, je devrai faire un autre travail, car il n'en est rien sans l'informatique. Je travaillerai dans l'informatique en plus car le temps reste dans le coup. Je me renseigne déjà que les possibilités de travail existantes dans mon pays où je pourrais utiliser les connaître et les langues apprises ici. Pendant plusieurs années, je suis levé à 4h du matin pour apprendre l'anglais avec des cassettes qui m'avait donné le service d'enseignement. Ce service organise aussi le cours d'anglais et de français. Mais ils ne sont pas satisfaisants car les élèves sont ni trop différents des débutants. Et c'est ici que parle déjà comment l'anglais participe au même cours. Comment donner pendant les mêmes heures un cours, à quelle vitesse les débutants sont engagés. Car ils sont le sentiment d'empêcher les autres d'avancer, le professeur est placé dans une situation difficile. Quand je suis arrivé ici il y a 5 ans, la situation était très tendue dans la prison. Le système des phases n'existait pas encore. Il y avait des clans fondés sur des nationalités et des confrontations entre ces clans. Les Italiens, qu'ils étaient 50 ou 60 à l'époque, dominer la situation, ces périodes étaient très dures car il était presque impossible de ne pas appartenir à un clan, de rester neutre. Voilà, évitez mal vu par le clan si vous voulez faire quelque chose, car si vous voulez progresser, par exemple apprendre, vous avez automatiquement le contact avec l'administration et vous étiez considéré comme une lèche-botte. Heureusement, j'ai trouvé une petite équipe qui était très en train et sans sortir d'étudier, de se former, d'apprendre l'anglais, de faire le bac. J'ai pu intégrer cette équipe. Imaginez-vous un nouveau qui arrive à Bochu ne sachant pas le français, déprimé, condamné à des peines longues de durée. Lorsque les leaders des clans voient s'intégrer un groupe de ceux qui veulent sortir, qu'ils éprouvent des énormes jalousies et restent dans un groupe concurrent à cette époque. L'administration demandait au programme pour l'infirmerie. Mes camarades m'en empêchaient de le faire. Pendant, les fonctionnaires savaient qu'ils se passaient dans la prison, qu'ils étaient qui, notre petit groupe n'a jamais compris pourquoi Il n'avait pas pourquoi il ne laissait pas aller les choses aussi loin que le chef. Le clan obtenait ce qu'il voulait par la force, en frappant. Jamais on n'a nommé l'inquiétude pour cela. L'administrateur avait peur de ceux qui montraient les dents. Je ne comprenais jamais qu'ils avaient été aussi devant la force. Par contre, l'administrateur faisait largement usage de son pouvoir sur notre petit groupe et savait nous punir. Un jour, il m'a trouvé avec un couteau parce que la situation était telle qu'il était impératif de porter un couteau pour se défendre. J'étais mis au cachot. Un nouveau directeur, M. Chevalet, venait d'arriver. Il m'a fait appeler, m'a demandé ma nationalité, et je lui ai dit, « Ça y est, c'est un dur », déclare-t-il. Puis il se lève et s'en va. « Mais, monsieur, laissez-moi vous expliquer. » Il ne m'écoute pas et sort les gardiens présents qui ne connaissaient rien. Compris non plus, j'ai fait des 5 jours au cachot qui n'a guère d'importance, mais j'ai trouvé à avaler la justice, la manière restée marquée au fond de moi. Moi, je dois aussi dire que M. Chevalet a réveillé une certaine inquiétude qui existait ici chez les fonctionnaires. Il aurait aujourd'hui le grand changement de l'ambiance de la prison. Pourtant, il faudrait encore améliorer le système. Par exemple, la phase d'évaluation pour arriver de préventif où avait été enfermé toute la journée pendant plusieurs mois. Ici, arriver dans le système d'évaluation où vous êtes enfermé 15 jours ou 10 heures par jour, que dit l'administration ? Nous ne connaissons pas ce que nous devons pas connaître. Bonjour. Déjà, c'est le même étrange que le pénitencier où nous arrivons et nous connaissons. Par ailleurs, nous venons de passer 2 mois en préventive. Un détenu dangereux qui arrive et en préventive continue donc à être enfermé et n'arrivons ici que la situation d'évaluation. Est-ce qu'il va bouger alors qu'il n'a aucun marge de liberté? Comment le connaître dans ces conditions alors qu'il ne peut rien faire? D'accord. À Bochu, sans compter les préventives, vous perdez le sens de la punition et vous ne savez plus pourquoi vous devez continuer à rester dans tout le même rester tout le temps à genoux. Vous pourrez aussi à ce moment là le sens de la responsabilisation. Comment devenir responsable quand les portes sont fermées? Si je reste dans l'atelier à travailler, est-ce parce que j'ai appris la responsabilité de travailler ou parce que j'ai la porte fermée? Auparavant, il fallait s'inscrire sur une liste pour aller chercher le livre à la bibliothèque. Donc la porte était fermée. Maintenant, la bibliothèque est ouverte. Cela va dans le bon sens. C'est une marge de responsabilité que nous avons engagée. Comme je l'ai dit à M. Chevalet, à surveiller l'esprit d'évolution de nos fonctionnaires. Car ici, c'était quelque peu un endroit au fil des années. Il y a des meilleurs rapports entre détenus et entre les fonctionnaires et détenus. L'esprit de fonctionnaire a changé, je crois. Qu'ils se sentent mieux préparés à écouter les demandes des détenus, percevoir le vrai problème. J'ai l'impression que le directeur m'a mis lui-même la main à la pâte dans tous les domaines. Il savait tout et ne laissait rien échapper. Je l'ai vu un jour expliquer comment ouvrir la porte à un fonctionnaire qui travaillait là depuis 21 ans. Pourquoi le faisait-il? Parce qu'il avait vu personne ne bougeait. Il faudra que nouveau continue à améliorer les phases et surtout le système d'enseignement. Les détenus sont presque toujours d'énormes lacunes et formations. Pas de métier, pas d'école, pas de diplôme ou d'apprentissage pour terminer. L'atelier d'informatique que j'ai fréquenté si longtemps, j'ai remarqué qu'un seul détenu avait vraiment appris quelque chose. Tous les autres allaient là-bas pour jouer, pour toutes sortes de raisons, mais ne savaient même pas taper une lettre, même leur propre langue. Alors j'ai compris pourquoi ils me regardaient comme ça. C'est là que j'ai vu de cesser de préparer le programme de l'infirmerie. Un apprentissage comme ça, c'est dur. Au début, j'ai perdu du temps, seul devant une machine, sans personne pour m'expliquer. Parfois, le détenu aurait envie de progresser, mais démobilisé parce qu'il ne faut montrer passion. Il manque des professeurs, il faut attendre une place libre. Et si entre deux cours où les autres détenus sont plus avancés, qui va lui rencontrer une nouvelle difficulté? Pourquoi un détenu avancé ne donnerait-il pas des leçons à ceux qui débutent? L'administrateur a horreur de ça. Elle le tolère parfois, comme ce fut le cas pour moi, de manière un officiel ni reconnu. Mais l'administrateur ne veut pas dépendre d'un détenu enseignant, ni d'un détenu dépendre qu'un autre détenu qui pourrait devenir un chef de clan. Bien sûr, la qualité de la personne joue un rôle, mais j'ai vu auquel un certain savoir tourner la tête d'une certaine façon. L'administrateur a raison. Par contre, dans une relation individuelle, j'ai reçu beaucoup d'aide. Et me rapprochant des gens qui me parlaient bien l'anglais, nous avons parlé, marché, répété 1000 fois ensemble. De nombreux détenus ont de graves problèmes médicaux, d'alcool, de drogue, ou purement psychiatriques. Tout ce monde devrait quitter Bochu. Ils ne peuvent pas s'intégrer normalement dans les groupes, que ce soit à table ou ailleurs. On ne peut pas communiquer, ils doivent être à tout moment à l'infirmerie, chez le psychiatre, chez ou le psychologue. Il me semble que leur place n'est pas ici, mais dans un établissement spécialisé. Ici, c'est horrible pour eux. Pour les autres détenus et pour les gardiens, j'ai vu des gardiens devoir laver la cellule qui était dans un état épouvantable. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas en Suisse un hôpital, une division spéciale pour eux. À la section ouverte du pénitencier, nous sommes actuellement 5 détenus et je suis content de pouvoir continuer à m'y occuper utilement de l'informatique. Mais je pose des questions au sujet de mes camarades. Lorsque l'un d'entre nous part congé le vendredi soir, il a cessé de rentrer le dimanche soir. Pourquoi tel camarade est-il déjà resté le retour du samedi ou le dimanche matin? A-t-il vraiment un projet de sortie? Quelqu'un l'a-t-il aidé à le voir? J'aimerais un travailleur social reste en permanence à la section. La section ouverte. Y développer quelque chose, y apporter de l'animation ou de l'imagination. Quelque part, j'ai de la chance, un détenu libéré qui n'a pas de famille derrière lui. Je ne sais pas comment il pourrait faire pour devenir récidiviste. Moi, j'ai de la famille, 2 enfants. Ils sont venus me trouver 4 fois depuis si loin. Nous correspondons régulièrement. C'est important pour moi de savoir que je pourrais m'appuyer sur quelqu'un au moment de ma sortie. Il y aura quelqu'un derrière moi. Les liens ne donneront aucun mal. Mais maintenant, à temps, j'ai aussi un peu de compter sur eux. J'envoie de l'argent et je gagne ici, j'envoie de l'argent que je gagne ici à ma famille. J'ai ma mère, 3 sœurs et 2 frères qui s'occupent de mes enfants. Et il paraît que le passé de cet argent, ils ne me l'ont rien demandé. C'est moi qui ai pris l'initiative de le faire et de me responsabiliser vis-à-vis de mes enfants. Maintenant, Carlo a terminé sa peine et notre connaissance est repartie de son pays, où il a pu rejoindre sa famille. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci.
Et c'est Nelly qui va lire le deuxième témoignage.
C'est toujours avec plaisir que je participe aux congrès, aux journées d'études, aux conférences que le GRAP organise. On y rencontre différentes personnes, différentes professions, différentes provenances, et j'ai toujours du plaisir à y participer. Je vais vous lire maintenant le témoignage que Luc Pan a recueilli il y a quelque temps pour notre journal Tout comme vous. Je suis née à Lausanne et j'ai 29 ans. Je suis arrivée ici il y a 4 ans, condamnée pour 12 grammes d'héroïne et 4,5 kg de hashish. J'ai suivi un parcours un peu compliqué aux EPO, car j'ai fait 2 overdoses en prison et j'ai passé des séjours en maison de désintoxication. Je me suis aussi évadée une fois. Bien que je n'aie pas été condamnée à la réclusion mais à l'emprisonnement, j'ai préféré être ici au pénitencier plutôt qu'à la colonie. À la colonie, on trouve beaucoup de drogues dures. Ici, en réclusion, on trouve moins de drogues dures mais plus de hashish. Un problème se pose à la colonie. Chaque fois que vous demandez quelque chose, par exemple un congé, vous devez d'abord passer par le contrôle d'urine. Or, les traces de hashish restent 3 semaines dans l'urine, alors que l'héroïne disparaît après 3 jours. Il y a ainsi des détenus qui n'ont jamais touché à l'héroïne avant la prison et qui commencent ici simplement parce que 3 jours après, on peut les faire pisser sans que rien apparaisse à l'analyse, alors qu'ils risquent d'être punis avec le hashish. J'ai un ami qui a dû retourner 3 mois à la division D à cause d'un joint. Je suis en section responsabilité, mais je ne comprends pas tellement pourquoi on l'appelle comme ça. Parce que, en fin de compte, on est plutôt déresponsabilisé. On nous nettoie notre linge, on nous fait la bouffe, etc. C'est vrai qu'il y a le travail. À la menuiserie, il y a quand même pas mal de rendements, mais dans la plupart des ateliers, ils ne fichent pas grand-chose. Moi, je ne peux pas passer toute la journée à ne rien faire. Il y a ici un atelier de brochage où ils fabriquent des cahiers d'école. Les mecs y jouent aux cartes pendant 4 heures et travaillent éventuellement le reste du temps. Tous les jours. Tous les jours. Moi, je ne pourrais pas. Les journées seraient trop longues. Je penserais trop. À la menuiserie, on n'arrête pas, on est actif. C'est comme à l'extérieur. La journée passe plus vite si l'on travaille que si l'on reste tout le temps à une table de bistrot. À l'extérieur, j'avais fait 2 ans d'apprentissage de menuisier et au début de ma peine, j'aurais pu terminer mon apprentissage ici. J'ai été très bête de ne pas le faire à ce moment-là. Il faut dire qu'on ne me l'a pas proposé et que je ne connaissais pas exactement les possibilités. Maintenant, c'est trop tard car normalement, je suis dehors dans 6 mois. Sans conditionnel ni rien. Ils ne m'ont pas fait de cadeau. J'espère qu'ils vont quand même me faire un petit papier attestant que j'ai bien travaillé à la menuiserie pendant telle période. Ça facilitera quand même mes recherches de travail, même si je n'ai pas de CFC. Pour me faire entendre ici, j'ai dû hurler. Si je suis libérée sans boulot, ni logement, sans rien avoir préparé, je suis foutue, car le seul métier que je connaisse, c'est la drogue. Je fais la grande descente et je me retrouve ici dans 3 ans. Alors ils m'ont donné une dernière chance. Jeudi, j'ai une conduite de 4 heures avec un assistant social et une personne du service médical en ville. Après, ils me donneront une sortie. Normalement, il faut attendre 3 mois après la conduite, mais ils me la donneront tout de suite. Si je réussissais cette sortie sans scandale en ville ou problème de ce genre, je pourrais aller en section ouverte. Je pourrais alors disposer de 14 heures par semaine pour sortir chercher du travail, pour réapprendre à côtoyer des gens à l'extérieur et gérer ma liberté. Je n'ai pas été condamnée à la réclusion, mais à l'emprisonnement. Et normalement, je devrais être à la colonie et non ici. Mais il y a tellement de bordel à la colonie que j'ai préféré me protéger en venant ici. À la colonie, la mentalité est impossible. Les gardiens ne nous respectent pas. C'est peut-être fait exprès pour mater les gens, mais ce n'est pas un bon moyen pour moi. Ici, les gardiens causent avec nous, rigolent. Là-bas, ça n'existe pas, ils sont toujours très sérieux. C'est toujours « tenez ça, faites ça », il n'y a aucune communication avec eux. Ici, les gardiens ont plus de considération pour nous. Il y a moins de violence qu'il y a quelques années. Est-ce en raison de la menace de retourner plusieurs mois à la division D? Est-ce dû à la longue durée des peines qui fait que l'on a une seule chose à faire, se respecter? Même avec un petit gars comme moi, qui avec les 6 mois qui lui restent, fait un peu touriste dans un lieu où la moyenne est de 10 ans, les gardiens sont respectueux. Cause. Vous n'avez qu'à regarder la tête des gardiens ici et celle qu'ils font à la colonie, si vous y allez, pour voir la différence. La colonie nous prépare mal à la sortie. Même si j'ai 29 ans, je suis toujours un adolescent révolté et le régime de la colonie me pousse à la révolte plus qu'à faire un travail sur moi-même pour comprendre. Et c'est le cas de nombreux détenus là-bas. La majorité sont des camés alors qu'il y a très peu ici en réclusion. Moi, j'ai fait 2 overdoses là-bas alors que je n'en avais jamais fait à l'extérieur. Il y a eu un progrès important ici avec le service médical, la possibilité d'être suivi par un psychiatre. Le problème, c'est qu'entre la colonie et ici, nous devons être plus de 200 et il y a 2 psychiatres. Si l'on est un peu privilégié, on va pouvoir le rencontrer une fois par mois, quelque chose comme ça, mais ils sont complètement débordés. 2 psychiatres à temps partiel pour une prison aussi grande que celle-ci, ce n'est vraiment pas assez. J'ai commencé un très bon travail thérapeutique avec le docteur Schechter, mais il est tellement débordé que ça doit bien faire 1 mois et demi que je ne l'ai pas revu et plus rien ne se passe. C'est vrai qu'il y a ici des gens qui en ont plus besoin que moi et ils passent en priorité. Quand j'allais très mal, il a été super. Il me voyait chaque semaine quand ma femme m'a quittée. Maintenant que je vais mieux et il y a beaucoup plus d'espace entre les rendez-vous. Si un taulard décide de faire un travail sur lui-même avec un psychiatre pour arrêter la drogue, c'est génial. Il fait un pas qui n'est pas facile à cause de la peur du changement et parce que l'héroïne, même si c'est la pire des putes, reste séduisante. Alors c'est dommage qu'il ne puisse réaliser ce projet parce que la prison manque de psychiatres. Les cures de désintoxication au Levant ou ailleurs ne réussissent pas avec tout le monde, je suis bien placée pour le savoir. Malheureusement, Schechter n'est là que le lundi matin et le vendredi matin. Ce n'est pas de sa faute, mais c'est grave. C'est comme pour les seringues, il y a de la drogue dans les prisons. Les responsables le reconnaissent et ne peuvent pas l'empêcher parce que les toxicomanes sont très malins. À l'extérieur aussi, la drogue est interdite, mais on peut acheter des seringues. Alors pourquoi pas en prison? À Hindelbank, un pénitencier féminin, ils ont fait le pas et il y a un distributeur automatique. Pourquoi ici devons-nous continuer à risquer le sida? Pour les questions de santé, les détenus devraient être traités comme à l'extérieur. Cette année, ils ont fait un grand pas, chacun à la clé d'une petite serrure de sa cellule. De 6h15 à 20h15, nous pouvons ouvrir et refermer nous-mêmes notre cellule. Cela nous permet de passer d'une cellule à l'autre, de communiquer entre nous, de circuler dans la division. Il y a parfois des tensions, mais je n'ai jamais vu de bagarre jusqu'à maintenant. Nous pouvons aussi aller manger les uns chez les autres. La bouffe est correcte, parfois un peu grasse. Mais il y a tout de même des légumes 2 fois par jour, de la salade. Certains vous diront que tout est dégueulasse, mais ça ne tient pas de vous. La cantine est un petit supermarché, et avec ce que nous gagnons au travail, nous pouvons acheter par exemple des pâtes, toutes sortes de choses, et faire la cuisine nous-mêmes dans la cellule. À la colonie, ceci n'existe pas à ma connaissance. Contrairement à la préventive, nous ne pouvons pas recevoir des marchandises de l'extérieur. Ils nous tiennent comme ça par les couilles pour nous obliger à travailler, mais c'est aussi pour nous mettre tous sur le même pied. Certains recevraient plus de choses et d'autres rien, mais je crois qu'il s'agit surtout d'un moyen de pression pour nous faire travailler. Sans cela, certains se glanderaient toute la journée en consommant le café et les cigarettes apportées par les visites. Depuis 2 ans, nous avons quand même droit à 4 colis par année, contenant chacun 6 kilos de marchandises. Avant, ce n'était que 2. Ils ne doivent contenir ni alcool ni médicaments, mais une cartouche de cigarettes par colis est autorisée. J'ai une mère qui a beaucoup souffert à cause de ma toxicomanie et sur qui je peux compter. Elle vient me voir souvent. J'ai aussi mon frère et peut-être une nouvelle amie. Il ne touche pas à la drogue. J'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. D'autres personnes ne reçoivent jamais de visite et ce doit être très difficile pour elles. Voilà la fin de ce témoignage. Quelques jours après la réalisation de cette interview par Luc Pont, ce jeune homme, suite à une conduite, c'est-à-dire une sortie accompagnée, a fait en prison une overdose et il en est décédé. Je vous remercie.
Je remercie Nelly pour cette lecture. Cette situation, tout comme l'autre, datait d'il y a 3 ans en arrière. Monsieur Schechter, le médecin, a quitté. Et puis, il y a un nouveau projet maintenant qui prend de plus en plus forme et dont Monsieur Valoton, chef du service pénitentiaire, va nous présenter.
Voilà, je vais me rapprocher de vous pour des raisons d'abord techniques. C'est que j'ai besoin de me rapprocher des commandes de mon engin pour illustrer mon exposé. Vous verrez que on n'est pas en arrière sur le Canada de ce côté-là et qu'on dispose aussi de ce genre d'instruments. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose en fait qui est en devenir. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement réalisé. Parce que c'est une réflexion que nous poursuivons avec le docteur Gravier déjà depuis un certain nombre d'années. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que les deux témoignages qu'on a entendus, c'est des choses, en fait, la situation a déjà pas mal bougé depuis ce moment-là. Elle n'a pas encore bougé complètement. On doit encore aller plus loin dans le domaine de nos prises en charge. Mais on est déjà dans quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors, première difficulté dans toute la mise en place d'un système pénitentiaire, c'est les différents buts de la sanction pénale. On en a parlé ces 2 jours, je crois que ça vaut la peine quand même de rappeler 2-3 choses, parce que ça vous montrera les contradictions qu'il y a et les difficultés qu'il y a à naviguer, à trouver un équilibre entre les différentes composantes. La sanction, elle a comme premier but la punition. Surtout, je dirais, vis-à-vis de l'extérieur, relativement peu vis-à-vis de l'intérieur. Et ça, c'est un premier élément qui me paraît important. Et là, un deuxième qui est la prévention générale. La prévention générale, on sait que ça marche surtout chez les gens honnêtes et non chez les gens qui sont prédisposés à la délinquance. Mais c'est quand même un élément, c'est une des composantes. Et faire peur par rapport à la menace d'une sanction, c'est un élément qui est là et avec lequel on doit composer. Un troisième, c'est la neutralisation, c'est éviter que la personne ne commette des nouveaux délits et ne réitère dans ses comportements. Le quatrième, c'est la prévention spéciale, c'est le traitement pénitentiaire, c'est l'éducation, c'est tout simplement éviter la récidive par une autre voie. Et vous verrez de vous-même que ces 2 éléments sont déjà pas mal contradictoires, parce que pour garantir la sécurité publique immédiate, on va rechercher à resserrer la personne dans un cadre qui est dans un cadre extrêmement rigide. On va le priver de responsabilité, on va le contrôler d'une manière extrêmement étroite, on va restreindre son champ de liberté, alors que l'apprentissage de la vie libre, ça se fait exactement par une démarche qui est contraire. Et enfin, nouveauté, ce que M. Loeb a oublié hier soir, en citant sa version de l'article 37 du Code pénal, c'est la réparation, qui est un nouvel élément qui est intervenu dans le Code pénal depuis quelques années et qui me paraît être un élément extrêmement important aussi, parce que sans prise de conscience de la souffrance qu'on impose à quelqu'un d'autre, sans avoir reconnu qu'un acte était répréhensible, il y a peu de changements possibles et les risques de récidive, en tout cas dans le domaine des délits contre la personne, restent relativement importants. Alors, en Suisse, je rappelle juste les peines principales. On a l'amende, on a la peine privative de liberté avec différentes formes d'exécution. Vous voyez ici les durées auxquelles ça correspond. Plus maintenant, à côté des mesures de sûreté sur lesquelles je reviendrai, un certain nombre de peines, peines possibles, disons de modalités d'exécution possibles, qui sont des modalités d'exécution en milieu ouvert. La dernière en date, les arrêts domiciliaires, c'est quelque chose qui se mettra en place dans le canton de Vaud, comme dans le canton de dans les deux Bâles, Soleure, Berne et Genève et Tessin, au début du mois de septembre. Donc là, on est en pleine expérimentation aussi par rapport à ces nouvelles formes d'exécution. Alors, pour les grandes tendances actuelles de l'exécution des peines, je dirais qu'il y en a deux. Actuellement, disons, tout ce qui est délit mineur se fait en dehors du pénitentiaire. Tout ce qui est délit beaucoup plus important nécessite une neutralisation et une prise en charge en prison. Mais la tendance actuelle, c'est véritablement de généraliser toutes les peines en milieu ouvert pour toutes les condamnations qui sont des condamnations inférieures à un an, et puis de privilégier le traitement à l'intérieur des établissements pénitentiaires pour toutes les autres situations. Un principe qui existe actuellement dans l'exécution des peines, c'est le régime progressif. On commence avec peu de liberté et on progresse avec une liberté toujours plus importante. Donc, en fait, une sécurité qui diminue au fur et à mesure de l'exécution de la peine. Je veux dire que ce concept-là, c'est un concept qui est remis en cause, lui aussi, par les différentes écoles qu'on rencontre à l'heure actuelle, parce qu'il y a un aspect chantage, il y a un aspect, dans l'automatisme de la mise en place de ces régimes progressifs, qui est un aspect sur lequel on doit réfléchir. Et on est en train de le remplacer maintenant par des formes d'exécution qui sont beaucoup plus consensuelles. Le code pénal polonais, par exemple, qui est en vigueur depuis 4 mois, est un code pénal, et la loi sur l'exécution des peines polonaises est totalement consensuelle. Donc, en fait, il n'y a pas une activité dans toute l'exécution des peines telle qu'elle est prévue maintenant qui se fait sans l'accord du détenu et sans sa participation aux décisions. Donc l'administration pénitentiaire en Pologne, c'est quelque chose de tout nouveau, offre un certain nombre de prestations et le détenu a le choix dans ces différentes prestations, et le plan d'exécution des peines est établi en accord entre lui et l'administration pénitentiaire. Alors, dans les catégories qui nous concernent, c'est essentiellement, ces jours, c'est des malades psychiques. Donc, eux seront essentiellement concernés par la mesure. Alors, vous l'avez vu hier, là, je le rappelle rapidement, la mesure, simplement sur la base d'une expertise, au niveau du jugement, le juge prononce une peine, la suspend et la remplace ensuite par une mesure de traitement qui est de durée indéterminée. Donc, la peine reste, comme ça a été encore redit hier en fin d'après-midi. Mais elle reste comme menace jusqu'à ce que la mesure ait porté son effet et jusqu'à ce qu'on puisse, constater que le traitement est quelque chose qui a réussi. Alors, si je prends les différentes formes possibles pour les délinquants sexuels, pour les délinquants malades psychiques à l'heure actuelle, on a l'irresponsabilité totale avec soit une possibilité d'internement, soit une hospitalisation, soit un traitement, soit une libération de toute peine. On a ensuite une privation de liberté qui peut être suspendue au profit de l'article 43. On peut avoir une privation de liberté qui est suspendue au profit d'un internement, un traitement ambulatoire qui accompagne l'exécution de la peine, ou un sursis avec un traitement obligatoire dans le cadre du sursis. Alors, notre problème à nous, milieu, qui sommes chargés de faire exécuter et de contrôler l'exécution de l'ensemble de ces mesures, c'est de disposer des structures nécessaires. Et c'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'au début de cette décennie, dans le canton de Vaud, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des collaborations occasionnelles avec des médecins extérieurs, il y avait des médecins internes qui travaillaient au sein des établissements à temps partiel, il y avait des équipes infirmières qui étaient engagées par les établissements eux-mêmes. Mais il n'y avait aucune coordination entre les équipes, il n'y avait pas de structure qui regroupait ces gens et qui leur donnait de la force. Ce qui fait que le médecin pénitentiaire était quelqu'un de totalement isolé. C'est pas avec une activité à 20% dans le cadre d'un établissement qu'il avait la possibilité, ou à 30% qu'il avait la possibilité de se faire entendre, ni vis-à-vis de ses collègues extérieurs, ni vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, tout simplement. Et il avait une indépendance qui, bon, même si elle existait dans les faits, était relativement restreinte. Donc nous avons cherché d'abord à modifier tout ça en créant d'autres structures. Et puis après, on essaie aussi, dans le cadre d'une nouvelle organisation dont je vous parlerai tout à l'heure, de développer les structures de soins qui nous sont nécessaires. En effet, un autre constat qu'on fait, c'est que, ça a déjà été dit aussi, on constate maintenant un transfert assez important des malades psychiques depuis les milieux extérieurs en direction de la prison. Je crois que c'est un phénomène qui a été signalé ce matin, c'est un phénomène dont j'ai eu l'occasion de parler dans différents pays européens. Je crois que c'est une donnée à peu près universelle à l'heure actuelle. Et l'ouverture de la psychiatrie fait que une partie des dangereux ou des cas qui sont problématiques ne trouvent plus leur place dans les milieux des cliniques et sont de plus en plus mis en place, et disons, trouvent leur place maintenant dans les établissements pénitentiaires. Et je dirais, il y a peut-être un élément de réflexion qu'on peut rajouter par rapport à cette ouverture ou ce mode de travail différent des cliniques, c'est que dans un certain nombre de cas, on constate quand même que le fait de marquer un cadre, le fait de sanctionner, le fait de donner une certaine responsabilité à la personne peut être un élément qui peut faire avancer au niveau de la thérapie. Alors, les structures que nous sommes en train de mettre en place actuellement, oui, ça c'est un autre élément que je signale juste en passant, c'est qu'on constate aussi, je dirais, dans les établissements pénitentiaires, une péjoration de la santé mentale de la grosse majorité de la population. Les toxicomanes sont des gens qui, de plus en plus, sont des gens à double ou à triple diagnostic, qui ne souffrent pas seulement de leur dépendance, mais qui souffrent aussi d'autres problèmes, de problèmes psychiques importants. Comme M. Pochon l'a dit ce matin, le nombre de délinquants sexuels a augmenté énormément en prison ces dernières années. Aux établissements de la Plaine de l'Orbe, on a passé de 10 à 46 en 3 ans, à peu près. Donc, c'est un problème assez important. Les troubles de la personnalité sont des troubles qui sont eux aussi en augmentation. Et on peut dire, comme ça a été confirmé ce matin d'ailleurs, qu'à peu près 50% de la population nécessite une prise en charge dans ce domaine. Alors, au niveau de nos institutions, ce qu'on a commencé par mettre en place, à côté des cliniques qui avaient beaucoup de peine à accueillir une partie de notre clientèle, c'est une première division psychiatrique qui se trouve à l'intérieur de la prison de la Tuyère. Et cette division psychiatrique est réservée à tous les prévenus qui nécessitent des soins aigus et qui sont aussi prêts à faire une certaine démarche dans le cadre de leur détention préventive. Je veux dire, les résultats et l'efficacité de cette première division psychiatrique qui a été ouverte en prison n'est plus à démontrer. Les résultats sont extrêmement intéressants sur des tas de domaines. Ça permet de mieux préparer les jugements, ça permet de beaucoup mieux préparer les traitements par rapport à la suite de l'exécution. Et on a des avantages qui sont des avantages très nets. Alors, c'est une première partie. Il fallait qu'on continue à développer le reste de ce qui nous était nécessaire de cet appareil en partant de zéro. Alors, l'étape suivante, qui est une étape qui est en train de se mettre en place, c'est l'ouverture de la sœur jumelle de cette première division psychiatrique à l'intérieur des établissements de la Plaine de l'Orbe, à Bochu. C'est une division qui est à l'heure actuelle en construction. Les travaux seront terminés vraisemblablement vers octobre-novembre de cette année. Le personnel pénitentiaire, parce qu'il y aura quelques gardiens qui travailleront pour la surveillance périphérique de cette section, est en cours d'engagement. Le reste est en cours d'engagement au niveau du SMPP aussi. Et en fait, c'est une section qui commencera ses activités sur la fin de l'année. C'est un élément, une chaîne extrêmement importante, c'est qui nous manque pour l'instant, parce que les prises en charge de longue durée, pour l'instant, ne peuvent se faire que d'une manière ambulatoire et non pas dans un lieu qui est un lieu approprié. Ce que je peux dire par rapport aux établissements eux-mêmes dans ces deux sections, c'est que là aussi, on a un certain travail à faire. Dans la préventive vaudoise, très peu de personnes ont des activités hors de la cellule dans la journée. C'est de l'enfermement pour l'instant, pour la majorité des gens, 23h, 22 ou 23h sur 24. Il n'y a pas de possibilité de travail. Il n'y a pas de possibilité ou très peu de possibilités de loisirs. On a développé un peu des possibilités sportives, heureusement. Mais on est encore, je dirais, dans une situation d'insuffisance nette par rapport à ce qui est nécessaire. Et il y a, je dirais, qu'on est dans une situation qui favorise plutôt la crise, qui favorise plutôt la maladie mentale pour le moment, plutôt que de pouvoir la soigner. Alors, il y a des projets de ce côté-là. Cet automne, on ouvrira, si on nous en accorde les crédits, une nouvelle aile à la prison de la Croisée, dans laquelle on mettra non seulement des cellules supplémentaires pour faire face à la surpopulation, mais on mettra aussi un certain nombre d'ateliers, de possibilités de possibilités de lieux d'occupation pour essayer de faire en sorte que la majorité des gens puissent sortir de leurs cellules et puissent avoir des activités déjà dans le cadre de la détention préventive. Pour l'exécution des peines, les témoignages vous ont donné, c'est un peu ancien, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qui correspondent bien à des réalités pénitentiaires de tous les jours. Le CAIDA, les clans, l'organisation interne, je dois dire, c'était une description absolument parfaite. Et on connaît maintenant, je dirais, des méthodes, des techniques d'architecture et des structures, des organisations de prison qui permettent d'éviter ce genre d'éléments d'une manière aussi large que possible. Malheureusement, le projet qu'on a essayé de faire passer il y a quelques années ici dans le canton de Vaud a été refusé. En fait, il n'y a même pas eu d'entrée en matière au niveau politique. Donc, c'est un travail qu'on remettra sur le métier parce que là, je crois que les constats qu'on peut faire dans une structure pénitentiaire classique sont clairs. On péjore les soins d'une manière extrêmement importante. L'ambiance générale, les contraintes de l'établissement, les contraintes de la sous-culture des détenus entre eux sont telles que les efforts thérapeutiques sont quand même largement freinés par le cadre institutionnel. Un élément qui nous manquait aussi dans toute cette organisation, c'est des structures qui sont à mi-chemin entre la clinique, la division psychiatrique pénitentiaire que nous allons mettre en place et des foyers extérieurs. Et c'est le but d'une fondation qu'on a créée l'année passée qui s'appelle la Passerelle. Et cette passerelle, en fait, va créer des foyers de transition qui seront responsables de la prise en charge des malades psychiques à leur sortie de la prison ou à leur sortie d'un traitement, d'une prise en charge lourde en clinique, avant qu'ils ne puissent être mis en place et placés dans des foyers qui sont des foyers ouverts. Vous savez que la majorité des malades psychiques sont des gens qui évoluent relativement lentement pour certains d'entre eux, surtout s'ils souffrent de troubles qui sont des troubles graves. Et les sauts qualitatifs sont extrêmement difficiles à supporter. On est obligé d'avoir quelque chose de très progressif. Actuellement, la première construction, en fait, le plan est fait. Le plan d'affectation de la zone, maintenant, est acquis. Il était accepté. Il nous reste plus que trois recours à traiter sur les 378 que nous avions au départ. Donc on peut dire que c'est un projet qui malgré tout avance et qui est en bonne voie, mais on a encore une ou deux batailles juridiques à faire avant de faire accepter l'implantation de ce premier foyer dans la région paillernoise. Mais je dois dire que c'est un instrument qui est absolument indispensable parce qu'on a actuellement dans la population pénitentiaire des gens qui sont bien stabilisés dans le cadre de leur maladie et pour lesquels rien ne nécessite la poursuite d'un placement en milieu carcéral. Et en fait, le milieu carcéral les empêche d'évoluer, les empêche de continuer leur progression. Alors, on rêve, j'espère pour ma part que le premier coup de pioche, si on arrive à résoudre tous ces problèmes d'opposition cette année, pourra être donné au début de l'année prochaine, pour une ouverture à la fin de l'année prochaine ou au début de l'année suivante. La voie suivante, c'est le recours à un certain nombre d'EMS. Vous avez entendu parler aussi dans les témoignages de la Sylvabel ou de la Croix-de-Pierre ces jours. Nous travaillons beaucoup avec ces structures qui nous rendent des services extrêmement importants. Donc c'est des structures privées et qui prennent le relais des structures pénitentiaires dès que les gens ont atteint un degré d'autonomie suffisant pour pouvoir vivre une vie communautaire qui est une vie communautaire correcte, tout simplement, dans le cadre de ces petits foyers, ou avoir certaines activités à l'extérieur. Puis ensuite, on a recours à des appartements protégés, à des foyers de jour, et à un système, disons, qui se termine tout simplement par des traitements ambulatoires. Alors, comme ça a été dit ce matin, je crois qu'un des éléments qui est important dans une organisation comme celle-ci, c'est d'avoir beaucoup de souplesse, parce qu'il faut pouvoir s'adapter au rythme d'évolution des gens, il faut pouvoir suivre tout simplement leurs possibilités, leur potentiel, et il faut aussi avoir une structure qui permette de faire face aux situations de crise. Parce que, et j'y reviendrai tout à l'heure en le présentant par une structure, ben, qui est représentée ici juste devant moi, c'est le quartier cellulaire psychiatrique de Belle-Idée à Genève. Et là, en fait, on dispose au niveau concordataire d'un certain nombre de lits qui nous permettent de réagir, je dirais surtout en cas de crise aiguë. Et c'est là que les patients qui sont en décompensation grave sont mis en place pour un traitement initial. Mais je dirais que le système est un système qui doit pouvoir fonctionner dans tous les sens et dans toutes les directions avec beaucoup de souplesse, parce que en fonction des événements que vit la personne, en fonction de sa vie extérieure, on doit être en mesure de faire face à une rechute, de faire face à une crise momentanée et le remettre dans un milieu plus strict, plus fermé ou dans un secteur hospitalier si c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc actuellement, voilà un peu, si vous voulez, l'architecture telle qu'on voudrait la mettre en place, telle qu'on est en train de la développer. Il n'y a encore pas grand-chose de réalisé. On n'est pas encore, on est loin de pouvoir dire que c'est une opération terminée. Mais je crois qu'on arrive maintenant à quelque chose qui est assez cohérent et qui fonctionne et qui fonctionnera quand tout sera terminé d'une manière relativement correcte pour l'ensemble de nos patients. Autre élément, c'est le contrôle. On a beaucoup parlé de pouvoir des psychiatres, de pouvoir du service pénitentiaire, à différents moments de la journée de ce matin, et c'est aussi quelque chose qui a été dit hier. Eh bien, je crois que le système qu'on a essayé de définir ici, c'est un système de réseau. Il y a une structure déjà, et je vais m'arrêter juste sur cette première liaison. Le service de médecine et de psychiatrie du docteur Gravier est une structure qui n'existe pas depuis très longtemps, comme je vous ai parlé de la situation antérieure. Si on a voulu cette structure, c'est d'une part pour donner à la médecine l'indépendance qu'elle doit avoir par rapport à la justice. C'est quelque chose qui est actuellement contesté dans les milieux pénitentiaires en Suisse, et spécialement en Suisse alémanique. J'ai beaucoup de peine à le comprendre d'ailleurs, mais nous en tout cas, nous sommes fermement partisans dans toute la partie romande de cette séparation nette entre ces deux activités, entre ces deux secteurs. Il y a des collaborations au niveau social avec différents réseaux comme la société du patronage, et puis il y a nos structures. Et les réseaux sont en général organisés par l'Office d'exécution des peines, qui est en fait le pouvoir de décision pour l'ensemble de ces situations, et qui va, en fonction des situations, en fonction des intervenants, réunir les réseaux de contrôle et les réseaux de décision qui sont nécessaires pour faire un plan d'exécution de peine, pour faire un plan qui tient compte de l'évolution de la personne et de ses possibilités futures. Donc, je dois dire que les résultats sont des résultats qui sont très très bons, et c'est aussi une occasion pour les gens d'apprendre à travailler les uns avec les autres, tout en respectant leur spécificité, tout en conservant leur, mais tout en apprenant à coordonner et à éviter en fait les contradictions qui peuvent être multiples dans le cadre de la prise en charge de ces différentes personnes. L'autre élément qui a été signalé aussi hier, c'est la commission interdisciplinaire consultative qui a été mise en place en 1994. C'est une commission en fait qui a un double rôle. Le premier rôle, elle sert d'interface entre l'autorité et les équipes soignantes. Ça permet d'éviter que des problèmes de secret médical. Ça permet d'avoir un instrument en fait qui traduit les données et qui passe les données d'un étage à l'autre sans qu'il n'y ait des conflits, parce que la restitution qui est faite à l'autorité est une restitution en fait de fait ou d'appréciation qui l'intéresse uniquement, mais pas du tout des appréciations qui sont des appréciations sur la thérapie ou sur ce qui est organisé. Et en même temps, elle sert aux équipes qui interviennent dans le terrain de garde-fous, de regard à distance, de supervision qui est aussi nécessaire. On sait tous que dans le cadre d'une relation thérapeutique, eh bien, il est difficile de faire à la fois preuve d'empathie et de distance. Et par rapport à certaines décisions, c'est important d'avoir une instance et un regard qui soit autre que le regard du thérapeute lui-même. Donc voilà un peu les différentes mises en place que nous sommes en train de faire. Et cette commission interdisciplinaire, je dois dire, ben, là aussi, elle travaille maintenant non seulement pour le canton de Vaud, mais elle travaille aussi au profit d'un certain nombre d'autres cantons qui lui soumettent leurs cas, qui sont les cas les plus compliqués et les plus difficiles. Et ça, c'est aussi une évolution quand je pense à quel point, disons, quelles étaient les oppositions qu'on a eu au départ de la part d'un certain nombre de cantons quand on a mis en place ces structures. Eh bien, je dois dire que le fait que maintenant ça soit ressenti comme un besoin par un certain nombre de nos partenaires est aussi là déjà un bout de victoire. Donc, les objectifs que nous avons d'une manière très très générale et que nous sommes en train de développer, ben, c'est d'essayer de développer toute une gamme de structures qui sont adaptées à la clientèle, qui sont adaptées à sa situation actuelle et qui sont adaptées à son potentiel. C'est de permettre à chacun des patients de progresser à son rythme et de trouver à chacun, disons, à chaque étape de son développement, les possibilités ou les structures qui permettront la poursuite de son évolution. C'est de nous appuyer parce que le canton est petit, on ne peut pas jouer à Pinel qui a quand même un bassin de population d'à peu près 6 millions d'habitants pour une structure ou pour, disons, importante. Ici, à l'échelle cantonale, nous sommes obligés de travailler d'une manière tout à fait différente et de nous appuyer à la fois sur des structures publiques et des structures privées pour faire ce genre de travail. Et c'est le développement de ces réseaux de prise en charge. Et c'est un travail interdisciplinaire. Je m'expliquerai un tout petit peu plus loin avec un des termes qui va venir maintenant par rapport à ce travail interdisciplinaire. Je crois qu'un des gros points qui est important à travers l'interdisciplinarité, c'est de redonner à chacun le rôle qui est le sien. Il y a un rôle qui est un rôle thérapeutique, il y a un rôle qui est un rôle de sécurité publique. Ces rôles sont des rôles qui sont complémentaires, qui doivent les deux participer à la décision, mais il y a des gens qui sont responsables d'affirmer un des aspects, il y a des gens qui sont responsables de faire respecter l'autre, et c'est des éléments qui doivent jouer ensemble et se coordonner, mais sans que ça ne soit au médecin de décider de la sécurité ou que ça ne soit aux autorités pénitentiaires de décider d'un suivi thérapeutique. Et je crois que l'interdisciplinarité telle que nous sommes en train d'essayer de la développer, et ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que les conflits de pouvoir existent, entre les équipes soignantes et les directeurs des prisons, par exemple, les conflits à travers des cas, ça continue à exister et ça existera en permanence. Je dois dire que c'est un système qui a besoin de réajustements, qui sont besoin de réajustements continus, parce qu'il n'y a pas un mode de travail qui sera défini une fois pour toutes. Les gens et nos patients, en général nos clients, sont toujours et seront toujours capables de trouver la faille qui nous mettront en position de conflit les uns avec les autres. Donc c'est quelque chose qui est un travail et un souci qui doit être un souci constant, mais je crois que sans cette volonté-là, eh ben, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas de cohérence dans le cadre de la prise en charge pénitentiaire. Alors, donc, nous sommes actuellement, je dirais qu'on a à peu près mis en place notre concept, on sait où on va, on sait ce qu'on veut faire,